Cette revue de presse est avec vous, Héloïse Roger, bonjour.
Bonjour Quentin, bonjour à tous.
Et ce matin, on évoque la libération de plus de 1500 prisonniers politiques au Bahreïn.
Le roi de Bahreïn a gracié 1584 détenus, une faveur qui a été prononcée la veille de la fête de l'Aïd el-Fitr. Sur les images de la chaîne de télévision d'opposition Lualua TV, on peut y voir un grand bus jaune avec à l'intérieur de nombreux hommes. Les détenus viennent de sortir de prison. Le véhicule est entouré d'une foule en liesse venue les acclamer. Le Guardian explique qu'il s'agit de la plus grande amnistie depuis le printemps arabe en 2011. Un geste qui reflète la sagesse royale et la vision humanitaire et constitue un geste paternel généreux de la part du roi Ahmad Ben Issa Al-Khalifa, selon le journal pro-gouvernemental Al-Watan. Selon Sayed Al-Wadaï, directeur du plaidoyer pour l'Institut Bahreïni pour les droits et la démocratie et cité par Voice of America, parmi ces prisonniers, beaucoup étaient détenus pour émeute car ils ont manifesté pour un changement de politique dans le pays. Au gouvernement Bahreïni, on dément, précise Voice of America, il n'y a pas de prisonniers politiques dans le royaume de Bahreïn. Cette grâce intervient alors que les autorités continuent de détenir des centaines d'opposants politiques, dénonce le Manama Post, et malgré les appels à leur libération par les organisations internationales de défense des droits humains. Selon des militants sur place, la plupart des détenus graciés viennent de la prison de Joe. Il n'en reste plus que 600 à l'intérieur, souligne le Guardian. Le journal britannique précise que de récentes émeutes dans les prisons ont fait peser sur l'État le coût du maintien d'un si grand nombre de détenus derrière les barreaux. Dans le Bahreïn Mirror, le parti d'opposition chiite Al-Wefaq a déclaré espérer que ces libérations soient le prélude d'une avancée plus importante en termes de droits religieux, humains et politiques. Hier, Al-Wefaq a publié sur son compte une vidéo. On y voit des familles de prisonniers encore en détention qui organisent des sit-ins pour demander le blanchiment et la libération de tous les prisonniers.
Et ce matin, Héloïse, on évoque également la venue de Gabriel Attal au Canada.
Le Premier ministre s'est envolé hier direction Ottawa, puis Montréal et Québec. Un déplacement pour tenter de renforcer les liens sur fond de tensions commerciales, souligne Radio-Canada, après le rejet du Sénat fin mars de la ratification de l'accord de libre-échange Canada-Europe. Pour annoncer cette venue, le Premier ministre canadien ne parle pas directement du CETA. On peut lire sur le communiqué officiel de Justin Trudeau que la visite du Premier ministre français sera une occasion de faire avancer nos travaux sur des priorités communes, citant la lutte contre les changements climatiques, le commerce et la protection de la démocratie. Gabriel Attal prononcera un discours devant l'Assemblée nationale à Québec aujourd'hui. La dernière allocution de la sorte date de 40 ans, ajoute Radio-Canada. C'était à l'époque de Laurent Fabius. Le Premier ministre français rencontrera ensuite le Premier ministre du Québec, François Legault. D'ailleurs, c'est bien lui, François Legault, qui en 2019 avait écrit avec Emmanuel Macron que l'entrée en vigueur de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne permettra de soutenir l'accélération des échanges commerciaux. Depuis, le journal La Presse précise que les exportations québécoises vers la France ont atteint 2 milliards de dollars canadiens en 2023 et les importations venant de la France frôlent les 4 milliards. Dans le quotidien Le Devoir, Pierre-Marc Johnson, ancien négociateur en chef du Québec pour l'accord de libre-échange, explique que le sujet sur le rejet du Sénat sera inévitable. La revue spécialisée dans le commerce international Mossy précise que Justin Trudeau lui-même, venu plaider pour la ratification de ce traité devant l'Assemblée nationale en 2018, a fait savoir qu'il comptait évoquer le sujet avec son homologue français.
Et l'on termine, Héloïse, avec une polémique sur Jérusalem, polémique suscitée par la marque de téléphone Apple.
C'est la présentatrice de télévision britannique Rachel Riley qui s'est indignée la première sur le réseau social X. Le quotidien The Sun raconte que lorsqu'elle a tapé Jérusalem dans le contenu d'un SMS, son téléphone lui a suggéré automatiquement un émoji du drapeau de la Palestine. Et cette histoire n'a pas échappé à la chaîne britannique ultra-conservatrice GB News.
Jerusalem is currently a city that is divided in two. There's a Palestinian side and an Israeli side.
Jérusalem est actuellement une ville séparée en deux. Il y a un côté palestinien et un côté israélien. Mais la nouvelle mise à jour du logiciel Apple n'en montre qu'un. Apple ne montre que le drapeau palestinien, pas celui d'Israël. Donc la question est-ce un acte de protestation d'Apple ou de l'entreprise en charge du logiciel, ou est-ce juste un accident? Apple a déclaré à la BBC que cela faisait suite à une récente mise à jour logicielle officiel que ce n'était pas intentionnel. Le problème sera résolu dans une future mise à jour. Ce n'est pas la première fois qu'un géant de la technologie se retrouve au cœur d'une polémique entre Israël et la Palestine. Rappelle la BBC, l'année dernière, Meta a dû s'excuser après un bug sur les biographies de certains comptes Instagram. Lorsqu'il y avait écrit le mot palestinien, il était automatiquement traduit en anglais par le mot terroriste.
Merci beaucoup Héloïse Roger. Cette revue de presse internationale est à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr et sur l'application Radio France. À suivre, on va évoquer la justice climatique.